Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Les Européens s'apprêtent donc à dévoiler ce soir, demain, peut-être plus tard, un nouveau train de sanctions économiques contre la Russie. C'est le cinquième train depuis le début de la guerre. Et pour vous, cette succession de sanctions finit par poser question et elle ne peut pas constituer l'alpha et l'oméga de la politique européenne vis-à-vis de Moscou. C'est votre monde d'après.
Répondre à l'agression militaire russe par des sanctions économiques, c'est le raisonnement principal de l'Europe. On l'a compris depuis le 24 février. Rien d'illogique à cela. L'Union des 27 est d'abord un marché commun, donc elle résonne d'abord en termes économiques. La première vague de sanctions avait d'ailleurs marqué les esprits. Elle était spectaculaire, une décision rapide et unanime, deux adjectifs qui jusqu'à présent s'appliquaient rarement à l'Union européenne. Mais depuis, le refrain commence à devenir répétitif et il devient de moins en moins lisible, si ce n'est dans sa mécanique. À chaque nouvelle escalade dans la guerre, un nouveau train de sanctions en réponse. Ça rappelle la logique en politique intérieure du déclenchement, vous savez, depuis des années, d'une nouvelle loi sur la sécurité à chaque nouveau fait divers ou presque. Voici donc venir le cinquième train de sanctions européennes après l'émotion légitime déclenchée par les massacres de Boutcha. Il y aura sans doute la mise à l'écart de nouvelles banques russes du système de paiement international SWIFT, des interdictions d'exportation de nouvelles technologies vers Moscou, des restrictions drastiques pour les transports de marchandises russes, des sanctions ciblées contre la famille de Poutine et sans doute une forme d'embargo sur les importations de charbon. Ce n'est pas rien puisque ces importations ont été multipliées par 5 en 30 ans, mais l'Europe a des solutions pour aller s'approvisionner en charbon ailleurs.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que ça va continuer comme ça, bientôt 6e, 7e, 8e train de sanctions.
Oui, c'est ça. À chaque prochaine escalade, comme un rituel, désolé pour le cynisme, le 6e train abordera sans doute la question d'un embargo sur le pétrole. Gros enjeu, parce que le brut rapporte financièrement beaucoup à Moscou, beaucoup plus que le gaz. Mais sujet déjà un peu plus compliqué que le charbon. La Bulgarie, la Slovaquie, la Finlande sont très dépendantes du pétrole russe. Et le risque est élevé d'une flambée des prix du gazole, avec des tensions sociales à la clé, style retour des gilets jaunes. Ensuite, au 7e ou 8e train, on finira par envisager l'arbitrage ultra sensible, le gaz. 45% des importations européennes, on le rappelle, viennent de Russie et c'est bien davantage, on le sait, pour l'Allemagne et pour tout l'Est de l'Union. En plus, les solutions de remplacement sont faibles, même avec le gaz liquéfié américain ou qatari, et de grosses entreprises comme Total le sentiraient passer. Mais la vérité, c'est qu'on ferait mieux de regarder ce sujet ultra sensible en face tout de suite, plutôt que d'égrener les sanctions à la queue leu-leu. Et le regarder en face, c'est admettre que de telles sanctions peuvent coûter plus cher à l'Europe qu'à la Russie. Bien sûr que l'économie russe va en pâtir, mais le pouvoir dictatorial de Poutine peut tenir, il accusera l'Occident, les Russes vivront dans la privation et le déni. En revanche, à l'Ouest, où les populations sont habituées à une forme de confort, ce sera une autre histoire. Le risque politique existe.
Mais alors, Jean-Marc, à quoi bon aller jusque-là si on y perd économiquement?
Si l'Europe est seulement une union économique, alors en effet, de telles sanctions n'ont pas de sens et se tirer une balle dans le pied. Mais justement, l'Europe n'est-elle pas davantage qu'un marché commun? Et à ce moment-là, la question des sanctions s'examine autrement. Il y a au moins deux autres portes d'entrée. La première, c'est celle des valeurs, de la morale. Si l'Union des 27 exerce après tout une attraction et suscite une admiration, notamment en Ukraine, c'est parce qu'elle est terre de liberté, d'humanisme. Se mettre en adéquation avec ses propres valeurs, c'est donc l'enjeu pour l'Europe, en l'occurrence cesser de financer la guerre de Poutine, libre à d'autres de la financer à notre place. L'autre porte d'entrée, c'est celle de l'environnement. L'Europe affiche sa volonté d'être le modèle, le leader mondial de la lutte contre le réchauffement climatique. La guerre en Ukraine nous en fournit indirectement l'occasion. Baissons rapidement notre consommation de chauffage, d'essence, soyons un peu plus frugaux. C'est la meilleure solution pour atteindre les objectifs climatiques et en même temps pour couper les ponts énergétiques avec Moscou. Certains pays européens, comme l'Espagne, qui a beaucoup développé ses énergies renouvelables, ont sans doute un coup d'avance en la matière. La stabilité économique est bien sûr un garant de la stabilité politique, personne ne le conteste. Mais il y a davantage dans la balance. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonçait ce matin l'inaction de l'Europe en affirmant « Certains dirigeants pensent toujours que les crimes de guerre ne sont pas des choses aussi terribles que les pertes financières. » À méditer.